RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous amène aujourd'hui au Timor oriental. C'était il y a 15 ans, moitié d'île coincée entre l'Indonésie et l'Australie. Le pays arrachait son indépendance par référendum en mai 2002, après 4 siècles de colonisation portugaise, puis 24 ans de lutte armée avec l'Indonésie voisine qu'il avait annexée par la suite. Dans ce petit pays d'à peine plus d'un million d'âmes, catholique à 98%, un bon tiers des habitants vit aujourd'hui encore sous le seuil de pauvreté. L'équation du développement y est notamment compliquée par l'extrême jeunesse de la population, les carences du système éducatif et les limites de sa principale richesse, des gisements pétroliers qui sont sur le point de s'épuiser dans les années à venir. Timor oriental, 15 ans, un grand reportage, signé Joël Brunet.
Il était une fois un crocodile. Selon le mythe, il se serait métamorphosé en île au moment de mourir pour offrir à un jeune garçon avec qui il s'était lié d'amitié une terre sublime au milieu des eaux, Timor. Ses descendants pourraient ainsi jouir de l'île à l'envi jusqu'à ce que le soleil se noie dans la mer. De nos jours, Timor et son passé légendaire de reptile a été politiquement découpé en deux parties. Timor Ouest, d'une part, qui appartient au plus grand archipel du monde qu'est l'Indonésie, et le Timor Oriental, d'autre part, qui est lui un état à part entière depuis 15 ans à peine. Lorsqu'un pays vient au monde, il est d'usage, comme pour tout nouveau-né, de lui donner un nom. Avant 2002, le Timor oriental s'est d'abord fait appeler Timor portugais, en raison de la colonisation menée par les émissaires de Lisbonne, puis Timor est, à la fin du XXe siècle, durant l'annexion indonésienne qui suivit le départ des Européens.
Officiellement, donc depuis 2002, ce pays s'appelle Timor l'Est.
Installée depuis 5 ans à Dili, la capitale, Christine Cabasset observe le pays grandir depuis le début des années 2000. Elle est notamment associée au CAS, le centre de recherche sur l'Asie du Sud-Est.
Timor-Leste, ça veut dire Timor-Est, mais c'est en portugais. Et donc en 2002, les Est-Timorais ont retenu ce nom pour nom national. Timor oriental, ça c'est le nom qui est préféré par les Français, en tout cas par le ministère des Affaires étrangères et du développement international. Ensuite, en tant que chercheur, lorsque j'écris, je fais une différence entre Timor-Est et Timor-Leste, puisqu'on ne peut pas appeler Timor-Leste avant 2002, si vous voulez. Donc pour différencier, j'utilise Timor-Est, on va dire entre 75 et 99, puis Timor-Leste ensuite.
Selon les chiffres de la Banque mondiale, entre 30 et 40% de la population du Timor oriental vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Un phénomène qui s'explique en partie par une phase de développement tardive héritée de l'époque coloniale. En effet, en dehors de l'exploitation de quelques richesses locales comme le bois de santal, les Portugais ont très peu œuvré à l'amélioration globale des conditions de vie sur place. Et ce, malgré une présence de 4 siècles. Et Christine Cabasset de conclure.
Pour le Portugal, c'était une colonie très lointaine et très petite qui présentait relativement peu d'intérêt par rapport à de grands territoires riches comme l'Angola et le Mozambique. Donc cette colonie très éloignée n'a jamais réellement bénéficié de réelles politiques de développement. Et donc ça se ressent encore.
L'identité actuelle de ce jeune pays de 15 ans s'est en partie construite sur l'influence de la religion, qui lui a pour ainsi dire servi de tuteur. Et à l'heure actuelle, pas moins de 98% de ses habitants sont de confession catholique.
Thank you.
Dans un premier temps, le catholicisme est arrivé d'Europe par bateau dans les bagages des missionnaires portugais. Au départ des hommes de Lisbonne en 1975, l'Indonésie voisine s'empare sans tarder de Timor-Est. Cette annexion, vécue sur place comme une invasion, marquera le départ de 24 ans d'un conflit armé entre les troupes du dictateur Suharto et la résistance est-timoraise. Sommés par les Indonésiens d'indiquer une religion sur leur papier d'identité, les Est-Timorais se tournent alors massivement vers celle de l'ancien colon, le catholicisme, par opposition à l'islam, la confession majoritaire de l'envahisseur.
Respondeu-lhe à lui, Seigneur, tu ne sais qu'un des chumbales, et au poche le fond, donne tes reines à agua viva.
Plus qu'un simple lieu d'asile, les églises ont aussi servi directement les intérêts de la résistance est-timoraise au nom de la protection des droits de l'homme. La visite du pape Jean-Paul II en 1989 favorisera aussi la réunion ultérieure des différents mouvements de résistance galvanisés par ce coup de projecteur médiatique. Le père Jovito, 53 ans, est prêtre du diocèse de Dili.
During the occupation, the Catholic Church played a very important role.
Pendant l'occupation, l'Église catholique a joué un rôle très important dans la défense des droits de l'homme. À l'époque, ceux qui étaient persécutés par les militaires indonésiens ne se tournaient pas vers la police ni vers les fonctionnaires ou les chefs locaux. Non, c'est vers l'Église qu'ils se tournaient et c'est aux prêtres qu'ils se confiaient. Il pouvait aussi arriver que des membres de la guérilla viennent nous voir. Par exemple, lorsqu'ils étaient à la recherche de médicaments, et nous leur fournissions. Dans ces cas-là, les Indonésiens nous accusaient de venir en aide aux rebelles, de favoriser l'instabilité. Non, nous les considérions comme des êtres humains qui avaient besoin d'aide, pas comme des hommes politiques. Et c'est notre devoir de venir en aide à tous les êtres humains, sans exception.
Au total, au moins 100 000 Est-Timorais ont perdu la vie au cours de ces années de conflit. Et lorsqu'en 1999, un référendum d'autodétermination est mis en place sous l'égide de l'ONU, qui n'a jamais reconnu l'annexion indonésienne, Dili vote massivement pour l'indépendance. Un choix qui provoque la colère de Jakarta et entraîne une réaction brutale de la part de ses troupes, épaulées par des miliciens locaux. Des massacres sont perpétrés et systématiquement, les militaires détruisent, rasent, démolissent. C'est donc dans ces décombres que le Timor oriental voit officiellement le jour et c'est dans les ruines que l'enfance du pays débute. Le Timor oriental, nouvellement indépendant, a ainsi grandi avec la mémoire de la résistance dans son ADN. Aujourd'hui encore, 15 ans plus tard, les hommes politiques influents ont tous un lien direct avec le mouvement de résistance à l'Indonésie. En mars dernier, à la sortie de la capitale Dili, des milliers de personnes viennent assister en plein air à un ultime meeting de campagne avant le scrutin présidentiel. Dans la foule, de nombreux jeunes, sachant qu'environ 70% de la population a moins de 25 ans, en profitent pour sortir entre copains et faire bruyamment pétarder leurs scooters.
Presidente da República, presidente do povo tamaquinha. Presidente da República para tua meeting, para tua estabilidade e tenha raiva.
Sur la scène Luolo. Dernière grande figure de la résistance est-timoraise, à n'avoir pas exercé de poste politique de premier plan en dehors de son parti, l'homme de 62 ans est sur le point de remporter l'élection quelques jours plus tard. Beaucoup estiment ici que c'est tout simplement son tour. Juché sur son scooter, Joaquin, 16 ans, est à peine plus âgé que son pays et encore trop jeune pour voter. Mais comme pour beaucoup d'adolescents, l'événement constitue aussi une sortie dans une ville où les divertissements ne sont pas légion. Comme tous les Est-Timorais, il a par ailleurs été, pour ainsi dire, biberonné à la mémoire de la résistance. Le lien direct du candidat avec l'ancienne rébellion est donc à peu de choses près la seule chose qui importe à ses yeux.
Si je suis venu à ce meeting, c'est pour encourager l'un des vétérans de la résistance. Et puis c'est aussi une façon pour moi de saluer la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays.
La mémoire de la résistance, voilà ce qui forge un pan essentiel de l'identité politique et de l'unité de ce pays aujourd'hui adolescent. À 3 heures au sud de la capitale d'Ili, au milieu d'une route dont des portions entières se transforment en simples pistes de gadou difficilement praticables, se situe le village de Maobissé. Casquette sur la tête et petite veste en jean, voici Amnemara, le maire de 29 ans. Sur son bureau, deux photos encadrées en noir et blanc éclipsent presque la paperasse avoisinante. La première représente Che Guevara, l'autre Nicolau Laubato, une figure estimoraise de la lutte armée.
Che Guevara n'est pas mon favori.
Che Guevara est l'une de mes idoles. Nicolau Laubato, lui, est un membre de ma famille, mais c'est aussi un héros ici. Il a été le premier homme politique à diriger le pays juste avant l'occupation indonésienne. Je les ai réunis sur mon bureau parce que tous les deux se sont battus pour un même idéal de liberté.
Au moment de se dire au revoir, le jeune maire au look décontracté nous précise de ne pas hésiter à venir investir à Maobissé. Même s'il est proféré sur un ton proche de la boutade, cet appel du pied souligne le manque de moyens d'une grande partie des habitants du Timor oriental. Une pauvreté encore largement répandue, qui saute d'ailleurs aux yeux dès l'arrivée dans la capitale. Si les constructions bétonnées font aussi partie du paysage, d'innombrables murs ou toits de tôle servent néanmoins de structure de logement aux habitants de la ville la plus développée du pays. Pourtant, de l'argent il y en a au Timor oriental, qui possède pour principale richesse des gisements de pétrole offshore. Le ministère des Finances est d'ailleurs la seule tour moderne du centre-ville, ainsi que son point culminant. Mais les gisements pétroliers en question devraient rapidement arriver à épuisement dans les années à venir, poussant les autorités, sur les recommandations d'organisations internationales, à majoritairement placer cet argent plutôt qu'à le dépenser trop rapidement. Un état de fait qui pousse un certain nombre d'observateurs à qualifier le Timor oriental de pays riche doté d'une population pauvre. Une vision que ne partage pas David Friedman, 32 ans, économiste de la Banque asiatique de développement à Dili.
Le Timor oriental a fait des choix politiques très raisonnables pour gérer ses richesses. Un fonds pétrolier a été créé et des montants financiers substantiels, 15,8 milliards de dollars, ont ainsi été mis de côté et investis dans des actifs à l'étranger. Mais comparé à d'autres pays, si vous regardez ce que représentent les quantités de pétrole et de gaz par habitant, les ressources du Timor oriental ne sont pas si abondantes que cela. À mon avis, la perception selon laquelle nous aurions affaire à un pays très riche avec des habitants pauvres provient du fait que les ressources ont été très bien gérées et que des économies importantes ont été placées à la banque, plutôt que du fait que le pays soit extrêmement riche en soi.
Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, la majorité de sa population, pauvre et peu éduquée, ne bénéficie que très peu des retombées de la manne pétrolière, à l'image de Félix, qui achète puis revend les poissons des pêcheurs sur le front de mer de Dili. Dans les bons jours, il parvient à engranger l'équivalent de 4,50 €.
Il y a eu de petits changements pour les simples citoyens comme moi. Disons que gagner sa vie est légèrement moins difficile qu'avant l'indépendance. Mais comme je vous dis, je ne ressens pas de profonds changements, seulement de tout petits. J'ai l'impression qu'on est encore loin du niveau de vie des habitants des autres pays qui ont obtenu leur indépendance il y a bien plus longtemps.
Si tout n'est pas rose et que certaines améliorations sociales tardent à voir le jour, les optimistes préfèrent insister sur le chemin déjà parcouru. David Knight est économiste à la Banque mondiale.
En termes de développement économique et social, les progrès accomplis en 15 ans au Timor oriental sont colossaux. D'autant qu'après des années de conflit, le pays partait d'extrêmement loin lorsqu'il a accédé à l'indépendance. La croissance économique a pourtant été rapide, puisqu'en 15 ans, elle a progressé de plus de 400%. Concrètement, le Timor oriental a exploité des réserves de pétrole au large de ses côtes et a prudemment mis de côté les revenus engrangés dans un fonds souverain, le fonds pétrolier, qui devrait faciliter les futurs efforts de développement.
Le représentant de la Banque mondiale, diplomate, nuance.
Bien sûr, au cours de ces 15 années, tout n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. Le pays a même connu un retour de conflits internes en 2006. Malgré cela, le gouvernement est parvenu à apporter des améliorations significatives, notamment concernant la réduction de la pauvreté et la progression des indicateurs humains. Par rapport à la ligne définie par la Banque mondiale, nous avons estimé que la pauvreté a chuté de 44% juste après l'indépendance à 30%, soit un progrès relativement significatif. Donc nous pensons que beaucoup a été accompli. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais le gouvernement, la société civile et tous les habitants du Timor oriental ont déjà parcouru un bon bout de chemin.
Une partie du futur proche du pays va s'écrire sous la présidence de Luolo, fraîchement élu. Même si le chef de l'État ne dispose que d'un pouvoir législatif limité, son rôle demeure primordial en tant que ciment de l'unité de la nation. Déjà assuré d'être élu en raison du soutien des deux principaux partis politiques du pays, il affiche ses ambitions dès la sortie du bureau de vote.
Les changements vont apparaître de bien des manières durant ma présidence. Fondamentalement, c'est le bien-être de la population qui m'importe, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'économie. Mon objectif est l'accélération du développement national à l'avenir.
Cette hiérarchie des secteurs prioritaires qu'évoque le nouveau président correspond en fait de facto aux engagements pris en 2011 par les dirigeants antérieurs, un plan stratégique national que le Timor oriental est supposé compléter à l'horizon 2030. Pourtant, tous ne considèrent pas que ces priorités de papier soient en réalité poursuivies avec tout le zèle nécessaire. Parmi eux, Juvenal Diaz, 35 ans, chercheur depuis une dizaine d'années pour le think tank Lao Amutuk, basé à Dili. Selon lui, il reste beaucoup d'efforts à fournir aux futurs dirigeants, notamment en matière d'éducation ou de logement, de secteurs qu'il juge très à la traîne, en particulier hors de la capitale.
À Lao Amutuk, nous considérons que nos dirigeants doivent changer de cap dans leur manière de gouverner. Plutôt que de trop attendre en rêvassant à propos des revenus issus du pétrole, nous les encourageons à vraiment développer l'agriculture, l'éducation, la santé ainsi que le tourisme. C'est capital pour l'avenir du pays. Ces 10 dernières années, les différents gouvernements ont échoué à développer ces secteurs et ils ont oublié que c'est l'amélioration des conditions de vie des gens qui doit être la priorité. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, nous avons perdu du temps.
Mais avant de se tourner vers l'avenir, le Timor oriental va d'abord se pencher dans les jours qui viennent sur son passé. Le 20 mai, le pays aura exactement 15 ans. Maria est enseignante. En marge du meeting du futur président, elle détaille tout ce que représente cette date symbolique.
L'anniversaire du 20 mai n'est pas simplement un moment de fête et de célébration, même s'il sera l'occasion de rappeler au monde entier que le Timor oriental a arraché son indépendance en 2002. Pour nous, il s'agit aussi d'une commémoration, du souvenir des milliers de personnes qui ont été tuées durant l'époque de la résistance. Aujourd'hui, 15 ans après l'indépendance, nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir pour que le développement progresse. En tout cas, nous ne devons plus nous opposer comme ça a pu l'être le cas dans le passé, mais être unis pour construire ensemble un bel avenir à ce pays.
À 15 ans à peine, le Timor oriental est en effet amené à déjà montrer un maximum de maturité s'il ne souhaite pas retomber dans l'une de ces périodes de conflit qui l'ont vu naître. Mais aujourd'hui, ce jeune pays semble avoir encore la vie devant lui, du moins jusqu'à ce que le soleil se noie dans la mer. Timor O, 15 ans, un grand reportage de Joël Brunner, réalisation Sandrine Straram.